Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour.
Nous avons pas mal travaillé jusque-là, pas mal échangé sur la Bible et sur la liturgie. Et aujourd'hui, si nous partions au début du catéchisme de l'Église catholique, et qui correspond au début de la profession de foi que nous disons le dimanche, le credo.
En disant « je crois ».
En oui. disant « je crois ». Et je trouve finalement assez intéressant et important de nous rendre compte que quand on commence le catéchisme de l'Église catholique, quand on commence à parler de la foi en Dieu, puisque c'est de ça dont il s'agit, eh bien on commence par regarder l'homme. Du reste, j'aime assez bien dire quand des gens me parlent de Dieu, j'aime assez bien dire, vous savez, le Dieu, si je vous parle du Dieu auquel je crois, forcément je vais vous parler de l'homme face à ce Dieu. Faire de la théologie, c'est aussi aller voir quel est l'homme qui croit en Dieu, c'est aussi de l'anthropologie, comme on le dirait. Et donc effectivement, le début du catéchisme nous donne une première section, « Je crois, nous croyons ». Lorsque nous disons notre foi, lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « Je crois ». C'est ainsi qu'est la section, qu'est ce paragraphe du catéchisme que j'ai sous les yeux, le 26. Nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons ». C'est d'ailleurs intéressant de repérer le
oui,
« je » ou le « nous ».
Le « nous » qui sont décisifs, oui.
Donc, avant d'exposer la foi de l'Église, dit l'article, telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, comme on en a largement parlé d'ailleurs, vécue dans la pratique des commandements et de la prière, demandons-nous ce que signifie « croire ». Et regardons qui est ce « je », qui est ce « je » qui croit.
Bien, cher frère Philippe, je dirais que ce « je » est comme illuminé par la parole de Dieu qui nous le dit en quelque sorte dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26-27, où le conseil divin prend position et déclare « créons l'homme à notre image et ressemblance ». Et d'une certaine manière, ce départ dont tu évoquais la possibilité pour aller vers Dieu, l'homme, il est tout tracé. Nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu. Ce n'est certainement pas par l'aspect matériel, puisque nous savons dans Saint Jean que Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Donc c'est du côté où en nous, il y a quelque chose qui n'est pas matériel. Et nous savons que nous sommes à l'horizon entre un monde matériel et un monde spirituel. Nous arrivons à mémoriser, nous arrivons à avoir des projets surtout, à être finalisés. Nous avons une conscience de nos anciens, nous avons conscience d'un au-delà parfois, et tous ces éléments petit à petit nous structurent et font que nous avons l'identité d'un « je » qui n'est pas banal. Nous sommes enfants d'une génération de parents, ça remonte jusqu'à l'Antiquité, et nous avons des familles qui prolongent d'une certaine manière cette descendance. Nous sommes donc inscrits entre un début et une fin, et tous ceux qui nous précèdent ont eu ces questions que nous nous posons. Qui suis-je ? Et qui est celui qui met de la finalité dans l'homme, et qui met de la finalité finalement dans le monde entier, car certains voudraient critiquer le finalisme, etc. Mais c'est absurde, puisque l'homme, on le découvre de plus en plus, est bien un produit de la nature. Regardez toutes les recherches sur l'Antiquité, l'archéologie, tout ce qu'on trouve sur les traces de la préhistoire. Eh bien, il y a de la finalité. Et donc, il y a quelqu'un qui a mis de la finalité dans l'homme et qui a mis de la finalité partout. Regardez les plantes, regardez les animaux, il y en a absolument partout. Et je peux, de ce point de vue-là, me dire, ben, il y a peut-être une fin et il y a peut-être une origine.
Il y a finalement le fait que l'homme est animé.
Alors, et l'homme
avec,
est animé.
Il a une âme. Alors, je souris en t'entendant parler, parce que hier soir même, j'étais avec un groupe de jeunes, et il est l'un d'eux qui est très, très croyant et très fervent d'ailleurs dans la pratique de sa foi chrétienne, citer un ami à lui qui était chrétien lui-même et qui a abandonné. Il expliquait que, donc, en faisant de la biologie, de la médecine, en fait, un professeur un jour a montré, voilà, le fonctionnement neuronal de l'homme, c'est ça, et je vous prouve ici qu'il n'y a pas d'âme dans l'homme. Donc l'homme serait une organisation de matériaux,
oui, c'est
finalement.
Ça, c'est, ça. Oui.
C'est bien exactement le contraire de ce qu'on pense. L'homme qui croit n'est pas simplement un homme programmé pour croire ou pour ne pas croire, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas une cathédrale de neurones. Nous sommes bien plus. Et de ce point de vue-là, tu as utilisé le beau mot des anciens de l'âme, qu'on retrouve souvent dans l'Évangile. Jésus parle souvent de l'âme. Et il y a même un concile qui s'est engagé sur l'âme. C'est le concile de Vienne en France. Il n'y a pas eu tant de conciles en France, mais il y a le fameux concile de Vienne au XIVe siècle qui a défini que l'âme était la détermination, ils utilisaient le vieux mot latin forma, la détermination du corps. Donc il y a quelque chose qui est plus élevé en nous, qui donne toutes nos déterminations en vue d'avancer dans cette aventure humaine entre un début et une fin, et nous sommes ajustés à ce projet avec lequel nous démarrons, et ce projet est sous le regard de quelqu'un qui a en quelque sorte les clés, je dirais, c'est un peu comme dans une boîte informatique où il y a un directeur, comme un superviseur qui voit exactement la programmation et qui peut toucher sur la programmation, qui peut arrêter, débuter, reprendre. Nous avons la capacité extraordinaire par rapport à tous les animaux, c'est de dire non. Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui est capable de dire non, non, il est incapable, on veut lui donner à manger, il ne veut pas, il se met à aboyer, il se met, etc. Mais il est incapable de suspendre, de dire, mais je mangerai plus tard, je peux jeûner, je peux retarder mon sommeil, je peux prendre du temps pour lire et abandonner tous les besoins matériels de ma vie. Je peux m'élever au-dessus de moi. Et sans cesse, je fais l'expérience qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que ce que je serais si je n'étais qu'un animal au sens biologique et déterministe du terme.
Oui, je peux mobiliser ma mémoire et je peux envisager le but que je recherche. Je peux rencontrer l'autre pas simplement comme un tas de matériaux. Je peux rencontrer l'autre, je peux aimer l'autre, je peux faire confiance ou avoir du mal à faire confiance. L'homme est habité vers quelque chose qui le porte vers là d'où il vient ou là où il va.
Et là où il va. Et il rencontre des choses qui sont absolument au-delà du règne animal, le vrai, le beau, l'ordre, des éléments dans lesquels un animal ne peut pas se situer. Nous avons le sens de l'ordre, nous avons le sens du beau, nous avons le sens de la finalité, et même le sens du mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, nous nous posons la question qui l'a provoqué, quelle est l'efficience, comme on appelle la cause efficiente, c'est d'où ça vient. Et puis, on cherche le pourquoi. Il suffit de voir d'un film policier, c'est toujours la question, quel est le mobile du crime, vous voyez, dans les romans noirs. Eh bien, le mobile, l'homme est habité par ses mobiles, et ce sont des mobiles qui peuvent être de nature très spirituelle, sans être marqués par seulement les besoins physiologiques de survivre ou de générer.
Tu te référais tout à l'heure au premier récit de
la Genèse,
première page de la Bible, et il est important de voir que dans cet homme créé à l'image de Dieu, c'est aussi un homme qui va être pleinement libre et qui va user de sa liberté pour justement viser le but qu'il recherche, ou qui va être empêtré dans sa liberté, peut-être à certains moments d'ailleurs.
Oui, cette liberté de choix est très caractéristique finalement de notre humanité. Nous avons bien sûr le sentiment que nous la rendons la meilleure possible, quand nous allons vers le bon, vers le bien, vers ce qui nous élève plutôt que ce qui nous abaisse. Mais cette liberté à bien faire peut malheureusement tomber en panne, s'enrayer, et elle peut être utilisée à défaut. Et c'est ainsi que nous constatons que Dieu nous a créés libres à son image de ce qu'il est libre, mais malheureusement capable aussi, par ce libre arbitre qui est un bien, de mal faire, de faire le mal. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui ne peut pas être perceptible dans le règne animal ou dans le règne végétal ou dans les autres éléments de la création. Il y a quelque chose en nous, alors peut-être les anges, on pourrait monter jusqu'aux anges, mais déjà là, il faut la foi pour croire aux anges. Les anciens avaient des idées sur le monde intermédiaire entre Dieu dans sa transcendance absolue et les hommes. Il y avait les anges et on imaginait un petit peu des êtres mystérieux qui dirigeaient les cieux. Et cette vision des choses est complètement perdue de nos jours et les anges, du coup, en ont fait les frais. On ne pense plus à eux et pourtant, ils sont là, ils sont présents, mais c'est vrai qu'il faut un saut dans la foi, je dirais, à ce moment-là. On n'est plus seulement sur le jeu de l'homme, on est en face de ces grands témoins qui, à la différence de nous, n'ont pas la partie visible. Ils peuvent se la provoquer en apparaissant, s'ils le veulent, mais ils n'ont pas la partie visible, ils sont pur esprit, intelligence et volonté.
En tout cas, nous allons continuer de parler de la foi en Dieu, mais pour terminer ce petit échange, donc nous pouvons insister sur le fait qu'il est important de dire quand on parle de Dieu, il faut regarder comment on parle de l'homme, quel est cet homme que nous sommes quand nous essayons de comprendre ce qu'est Dieu.
Oui, et le psaume 8 pourra aider certainement nos amis qui seraient en problématique telle que tu l'as exprimée à réfléchir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?